209, il y avait un garçon de café chez Larache, une femme de chambre, une ouvrière batteuse d'or, un ouvrier zingueur. C'est par là que tout commence. Des métiers, des noms, retrouvés dans le recensement de 1936, le dernier avant la guerre. L'agent recenseur va de bâtiment en bâtiment, d'appartement en appartement. Goura, Boum, Mijon, Haussmann, Pouratchik. Ils sont tous là, les 300 habitants du 209 rue Saint-Maur. 300 voisins. Parmi eux, près d'un tiers d'étrangers. Les Italiens, les Juifs venus de Pologne, de Roumanie. Chez les Diamants, il y a 8 prénoms. Les 2 parents nés en Pologne, 3 filles nées en Pologne. Les 3 derniers sont nés à Paris. La Benjamine Odette est de 1930, a donc 6 ans en 1936, quand un matin, l'agent recenseur frappe à la porte.
Ils s'appellent Odette, Jacques, René, Albert, Jeannine, Berthe ou Henri. Quand ils étaient enfants, leurs noms de famille étaient Diamant, Dinanceau, Baume ou Haussmann, des juifs et des non-juifs. Ils vivaient dans l'un des 4 bâtiments sur cour d'un immeuble de la rue Saint-Maur, à Paris. Ils jouaient ensemble, ils se chamaillaient, jusqu'à ce que la guerre et la déportation les séparent. Par la magie du travail d'une documentariste qui fait la généalogie de l'immeuble et leur permet de raviver les sensations disparues et les souvenirs enfouis de leur enfance fracassée par l'histoire, certains se retrouvent aujourd'hui à plus de 80 ans. Ils sont les protagonistes d'un film primé au Festival de Luchon, Haïfa et Biarritz, qui a été diffusé sur Arte mardi dernier et qui est visible en replay pendant 60 jours. Bonjour Ruth Zibelmann.
Bonjour.
C'est vous la réalisatrice du film, c'est vous dont on entend la voix là dans cet extrait qu'on a diffusé. On vous doit des films qui parlent souvent d'histoire, avec un grand H, de mémoire, de transmission entre les générations. Vous êtes plutôt sensible au parcours de résistance, de dissidents, de militants, il y a beaucoup de « en » aux relations entre la littérature et l'histoire. Je peux citer « Parcours résistant », « 68 années zéro », « Dissidents » ou « Les héritiers ». Autant de thématiques qu'on retrouve dans votre nouveau film « Les enfants du 209 rue Saint-Maur ». À quoi j'ajoute peut-être Paris, que vous aviez déjà filmé en suivant les plaques commémoratives dans Paris Fantôme. C'était, je crois, au début des années 2000.
C'était mon premier film.
Et c'était votre premier film. Tout part ici encore, avec les enfants du 209 rue Saint-Maur, Ruth Zibelmann, de promenade dans Paris.
Oui, absolument. Finalement, c'est un petit peu un de mes états favoris, celui de promeneuse. Je ne m'aimais pas dans ceux de beaucoup de gens avant moi, et c'est une de mes activités favorites. Et donc, étant donné que c'est une de mes activités favorites et que je fais des films, eh bien, j'avais envie tout simplement de filmer un de ces immeubles devant lesquels je passe continuellement, à ceci près que j'étais jamais passée particulièrement devant le 209 rue Saint-Maur. Mais l'idée était de faire un film sur un immeuble que j'aurais choisi au hasard.
Sur un immeuble plus que sur l'enfance ou sur l'enfance dans la guerre?
Non, c'était un petit peu les deux sujets, un petit peu deux interrogations qui se sont croisées. C'est-à-dire cette interrogation sur la persistance de la ville. Et en même temps, comme vous l'avez souligné, je suis un petit peu sensible aussi à la manière dont l'histoire, comme dirait Pérec, toujours avec sa grande hache, fait effraction dans les vies des gens comme vous et moi, des gens les plus anonymes. Et donc, je voulais travailler sur l'histoire d'un immeuble, en sachant que l'occupation en serait le fil rouge, mais pas uniquement. Et donc c'est comme ça que je me suis aventurée, parce que là, c'est pour ça que c'était un hasard un tout petit peu construit et malgré tout articulé. Je savais évidemment que dans certains arrondissements du nord-est parisien, c'est des lieux où il y a eu beaucoup d'immigrés, toujours, notamment dans l'entre-deux-guerres, des Juifs venus d'Europe centrale. Donc j'ai un petit peu orienté mes pas là-bas. Et puis là, ça a été vraiment une question de, de feeling. C'est-à-dire que je me suis aventurée dans cette rue Saint-Maur que je connaissais assez peu, qui n'était pas du tout une rue que je connaissais bien, les environs de l'hôpital Saint-Louis.
Dans le 10e arrondissement de Paris.
Absolument, c'est le bout de la rue Saint-Maur. Et je suis entrée dans cet immeuble qui a quand même quelque chose, dès qu'on y entre, une atmosphère, il y a une voûte comme ça un petit peu sombre, des échos, enfin il y a quelque chose.
Une cour pavée.
Absolument, une cour pavée qui en rappelle d'autres aussi dans la littérature, naturellement. Et puis, voilà, ensuite, il y avait aussi tout simplement des raisons, non pas techniques, mais on va dire cinématographiques. Le fait que la cour avec ses quatre bâtiments me permettait de multiplier les perspectives. Je ne vous cache pas que fenêtre sur cour était aussi quand même quelque chose que j'avais en tête. C'est-à-dire l'idée à la fois des regards réels qu'on peut poser sur ses voisins et puis tout simplement de les fantasmer. Donc, l'idée qu'on puisse filmer d'un bâtiment à l'autre et puis c'est un gros immeuble. Je savais qu'il y avait eu beaucoup d'habitants. Enfin,
300 résidents, hein.
300 habitants dans les années 30. Et donc, voilà. Donc, j'ai choisi cet immeuble sans rien savoir sur lui. Et c'est à partir de là que tout a commencé.
Alors le tout, Ruth Zilbermann, c'est une enquête en fait, puisque votre film est le fruit d'une enquête minutieuse de plusieurs années, comme un jeu de pistes. Est-ce que vous vous êtes dit, vous avez aussi une formation d'historienne, est-ce que vous vous êtes dit, je vais me lancer dans une enquête pour faire un film, ou vous avez fait également un travail d'historienne? Comment vous êtes, détective ou historienne pour faire ce film? Ou les deux peut-être?
C'était les deux, alors je dois dire qu'évidemment j'étais un petit peu accompagnée, ne serait-ce qu'amicalement dans ce travail, par deux historiens. Il y a Claire que d'une part, dont les problématiques sur la micro-histoire de la Shoah m'inspiraient, enfin étaient importantes. Alexandre Doulu aussi, qui est un grand connaisseur des sources de l'occupation et avec lesquelles je me suis un petit peu répartie finalement les archives à aller regarder, parce que vous imaginez que c'était un gros travail. Donc c'était les deux, c'était à la fois essayer de regarder les traces archivistiques qu'on peut trouver sur n'importe quel immeuble. Donc, ce sont des traces qui se trouvent, qui sont à la fois des archives urbaines, voilà, comme le recensement qui constitue un petit peu la première matière d'archives qui m'a permis de récolter tous les noms, de savoir un petit peu plus sur cet immeuble que je découvrais, en fait, dont je me doutais bien qu'il était prolétaire, il l'était, dont je me doutais bien qu'il y avait beaucoup d'habitants. En effet, il y en avait 300, et qui permettait tout simplement d'avoir une liste de nom, d'où ces gens venaient, les métiers, c'est des documents assez complets. Et puis à partir de là, l'enquête d'archives a été quand même assez vaste, dans plein de sources. Et en même temps, en effet, il s'agissait d'essayer de retrouver ces noms. Quand je voyais quelqu'un qui était né en 1925 ou en 1930, je me disais, c'est quelqu'un qui peut avoir des souvenirs. Et là, il s'agissait de retrouver ces personnes. Donc c'est à la fois une enquête historienne, une enquête de détective que j'ai menée de façon un petit peu concomitante.
Ces personnes, en effet, qui ont aujourd'hui 80 ans, hein, ce sont des octogénaires, ceux que vous avez retrouvés, qui étaient donc enfants pendant la guerre. Et ce qui est absolument formidable et bouleversant dans votre film, Ruth Zilbermann, c'est que justement, c'est l'histoire d'un immeuble, mais pas... pas seulement, disons, une histoire d'un immeuble par son architecture, par son histoire, sa généalogie, c'est évidemment via ses habitants. C'est-à-dire que vous partez de l'intime, vous partez du détail, ce qui nous montre bien que l'immeuble est une bonne échelle pour arriver à ouvrir plus largement sur l'histoire plus générale de la Seconde Guerre mondiale et de ses enfants déportés. Est-ce que vous avez procédé aussi de façon intime, c'est-à-dire dans l'intimité, pour réaliser le film, puisque vous partez de maquettes, de figurines, de meubles de poupées, des choses qu'on retrouve d'ailleurs dans La vie mode d'emploi de Georges Perec, hein. Et les meubles de vie de poupée, c'est aussi l'enfance. C'est pour ça que je dis, c'est quand même aussi un film qui s'attache à retrouver l'enfance en chaque être, en particulier dans ces personnes qui ont aujourd'hui plus de 80 ans. Aller chercher l'enfance, ça passait par les figurines, les petits objets que vous leur montrez pour faire ressurgir les sensations enfouies.
Oui, probablement, parce que c'était aussi finalement un moyen d'étayer cette sorte de remise à jour de souvenirs souvent enfouis. Et c'était aussi une manière pour moi, parce que ça c'était quelque chose dont j'étais consciente dès le départ, de déplacer un petit peu la question du témoignage, entre guillemets, même si les gens que j'ai rencontrés, toutes ces personnes, sont des gens simples, modestes, qui ont rarement parlé, qui n'ont pratiquement jamais parlé. Mais vous savez, quand on prend la parole, je crois, sur cette histoire, il y a tellement une volonté d'être dans un discours universel ou d'être dans cette pas injonction, mais du plus jamais ça, toujours entre guillemets, que parfois on tend à perdre la notion du détail, de ce qui vous est propre. Et là, c'était très important pour moi que chacun parle finalement du point de vue qui était le sien lorsqu'il habitait dans l'immeuble, tout simplement, qu'il puisse décrire son appartement, décrire ce temps avant que l'histoire ne vienne tout briser, ce temps où une mère fait la cuisine, où on entend simplement des radios qui courent d'un bâtiment à l'autre. Enfin, vous voyez, tout ce qui fait finalement, et évidemment ce qui faisait et ce qui fait pour nous, notre vie quotidienne, je veux dire, on passe notre temps à être dans cette sorte, je dirais pas de humus, mais de humus sonore, c'est ce qui nous constitue, c'est une part de notre identité, et je voulais que ce soit marqué avant qu'on comprenne comment cette identité-là, cette sécurité propre à l'enfance, cette sécurité fantasmée naturellement, mais cette sécurité est bien à l'abri dans les pierres, dans ces maisons comme ça de pierre, ces maisons de pierre parisiennes qui datent d'il y a tellement longtemps, et bien comment tout à coup la fissure va advenir et comment finalement ça va exploser. Et vous savez, je pense qu'il y a un texte qui m'a beaucoup marqué, qui est un texte d'un Polonais, d'un grand écrivain polonais qui s'appelle Czesław Miłosz, dans La pensée captive, qui écrit sur Varsovie après la guerre, sur Varsovie en ruine, et qui décrit précisément ce moment où ces immeubles sont détruits par les bombardements, où il n'en reste plus finalement qu'un bout de baignoire, enfin une sorte de vision surréaliste d'une ville en ruine, où ne reste plus que des témoignages extrêmement succincts de la vie qui y a passé. Et ça a été le cas pour Varsovie, en revanche Paris, et Dieu merci, a subsisté presque tel quel, intact. Et c'est ce contraste entre ce Paris intact qui survit à tout, ces pierres qui survivent à tout, et puis finalement les vies à l'intérieur, eh bien, qui sont complètement cues par-dessus tête et qui disparaissent comme ça du jour au lendemain, qui me fascinait et à quoi je voulais donner corps.
Ruth Zilbermann, est-ce que c'est parce que vous allez chercher la vie d'avant le fracas que ces personnes que vous avez retrouvées ont accepté de vous parler ? Parce que dans le film, vous montrez à certains moments qu'ils disent « je ne me souviens de rien, je ne veux rien savoir, c'est des mauvais souvenirs qu'il faut réveiller ». Et puis petit à petit, on sent bien qu'ils acceptent de parler devant vous, surtout que vous avez retrouvé des archives dont ils ignorent tout, puisqu'ils ont refait ou fait leur vie, donc ils ont tout oublié. Parler, c'est réactiver la douleur, mais en l'occurrence, comme vous allez chercher la vie, ils y vont aussi.
Oui, c'est ça. Je pense que la possibilité comme ça d'être sur des choses extrêmement précises, extrêmement vivantes, était peut-être une aide à la remémoration. Par ailleurs, il y a deux types de personnes que je rencontre. Il y a celles qui, les plus âgées, qui étaient des enfants et presque des adolescents au moment de la guerre, et qui ont donc des souvenirs qu'il faut en effet aiguillonner en quelque sorte, et c'est pour ça que ces objets m'aident, cette petite machine à coudre qui tout à coup évoque la mère qui faisait ses vêtements pour ses propres enfants, un lit où on dormait dans une pièce où 8 personnes dormaient, hein, parce que c'était des conditions de vie extrêmement difficiles. Donc il y a ces personnes un petit peu plus âgées, et d'autre part il y a ceux qui étaient les plus jeunes, qui avaient peut-être 3-4 ans et dont les familles ont disparu, qui se sont retrouvées un petit peu comme des feuilles mortes, dispersées aux quatre coins du monde. Eux n'avaient pas de souvenirs, eux ont reconstruit une vie sans souvenirs. Et quand j'arrive et que je leur dis « mais oui, bien sûr, vous n'avez pas de souvenirs, mais vous savez, vous avez quand même vécu là ». C'est là où vous avez vécu avec votre famille, c'est le lieu où vous avez grandi avant. Il y avait quelque chose, et il n'y avait pas rien. Alors que je pense qu'évidemment, ils se seront construits sur l'idée qu'il n'y avait rien, parce que sinon c'était trop douloureux. Alors dire il y avait quelque chose, je ne sais pas trop quoi, je vous apporte juste un détail, il y avait ça dans votre appartement, parce qu'il y a des listes de meubles tout simplement que j'ai pu retrouver, ou c'était peut-être telle porte. Tout à coup, c'est comme sur une carte vide, mettre juste un petit point de détail, et c'est quelque chose qui provoque, qui n'est pas facile. Ils ont accompli un chemin très courageux, mais qui provoque quelque chose d'assez inattendu, assez bouleversant.
Mon père, il a accueilli tout le paquet. Pas une voisine, il a accueilli tous. Il y avait les sœurs et les beaux-frères, voilà. Et les enfants, regardaient par la fenêtre. Les vis, on me rappelle, il me semble que les vis étaient peints en bleu. Alors ils grattaient comme ça, la peinture, pour ça faire un petit jour. Puis ils éteignaient la lumière, ils regardaient dans la cour. Ce qui se passait quand il y avait des rafles qui venaient ramasser tout le monde, quoi. Mon père, il serait fait ramasser avec eux. Hein. Il les aurait jamais donnés. Moi, je me rappelle que les officiers allemands, quand ils venaient dans la maison, pas chez nous. Mais quand ils venaient rôder dans la maison, qu'ils venaient faire leur art, ils venaient et ils me demandaient aussi, eh ben, Pipi, tu sais que c'est qu'il y a des juifs qui se cachent, je me rappelle de ça. Ma mère m'avait dit, si jamais tu dis ça, ils vont nous envoyer avec eux. On ne reviendra plus à la maison, tu ne nous reverras plus. La muette, moi, la planète, parce qu'elle ne parlait pas. Alors elle, c'était une saloperie dans toute la beauté du terme. Elle en a fait ramasser, ces gens-là. Elle se mettait avec un... Ça savait très bien écrire. Elle les balançait. Pour s'ils enfonçaient les portes, ils ramassaient tout le monde. Mais il y en a beaucoup qui sont partis qu'on n'a pas revus. Hein.
La voix de Janine dans votre film Les Enfants du 209 rue Saint-Maur, rue Zilbermann. On voit bien l'immeuble comme une micro-société. On parlait de la micro-histoire tout à l'heure, à la fois solidarité et trahison, parfois même au sein d'une même famille, comme la famille d'Inanceau de Janine. L'immeuble a été un refuge ou un piège. Et vous mettez ça également au jour avec vos post-it disposés sur les murs de l'immeuble pour retracer cette généalogie.
Oui, parce que c'est ça qui me semblait très intéressant avec cette échelle finalement, hein, cette notion d'échelle. Elle est vraiment très cruciale dans tous les travaux de micro-histoire que j'ai pu lire, consulter. C'est que, évidemment, ce qui est très important, c'est que c'est des interactions qui ressuscitent. C'est pas simplement des histoires individuelles, familiales, mais c'est toujours, on est toujours le voisin de quelqu'un, en quelque sorte. Et dans une époque tragique comme celle-là, ces voisinages, ces interactions ont été essentielles. Et ces liens que j'essaie de mettre au jour, et finalement, lien dans un lieu. Vous voyez, il y a quelque chose qui est très, très important, je crois. Et c'est ces liens que par l'enquête, que par le fait d'interroger les gens, de comprendre qui habitait à côté de qui voyait qui, etc. Et tout à coup, où je parviens à comprendre, encore une fois, de façon fragmentaire, pas du tout exhaustive, mais certains liens qui unissaient les gens et qui ont été extrêmement important puisqu'ils ont parfois permis de sauver ou au contraire de rendre voilà de dénoncer. Et c'est un petit peu le mouvement du film, remettre à jour ces liens enfouis, ces liens disparus.
Et qui vont jusqu'à aujourd'hui. L'espace est un lieu où se dépose le temps, dites-vous, Ruth Zilbermann. On voit aussi les ponts avec le présent. C'est-à-dire qu'on voit les habitants d'aujourd'hui, on voit la vie quotidienne. C'était votre volonté de rendre cette histoire vivante et pour aujourd'hui.
Bien sûr. Je pense d'abord, il y a beaucoup d'échos. Il y a quand même beaucoup d'échos qui peuvent se faire tout à fait naturellement sans que j'ai besoin de les surligner. La question de gens qui sont mis à l'écart, qui sont proscrits, et la question que pose d'ailleurs Janine d'Inanceau, qu'elle m'adresse à un moment en me disant mais vous, qu'auriez-vous fait ? Bon, c'est des questions. Les situations historiques ne sont jamais analogues naturellement, mais en tout cas, il y a des questions qui constituent des ponts entre les temps. Et par ailleurs, oui, ça obéit à une sorte de conviction ou presque de foi très profonde que j'ai, que les temps ne se succèdent pas comme ça linéairement les uns après les autres, mais qu'ils sont dans une sorte de rapport dialectique, que nous sommes entourés par l'autrefois, comme dirait Walter Benjamin, et que le maintenant et l'autrefois, et je cite toujours Benjamin, se retrouvent pour former une image telle une constellation. Et voilà, c'est cette image-là de l'autrefois et du maintenant qui tout à coup se retrouve dans une image, que ce soit dans l'image d'une cave sur laquelle on aperçoit des graffitis anciens, ou que ce soit tout simplement en voyant des gens d'aujourd'hui coucher leur bébé par des fenêtres. Et là, voilà, il n'est pas difficile d'imaginer des gens qui couchaient leur bébé en 1920 ou en 1941.
Comment fait-on, Ruth Zilbermann, quand on fait un film comme celui-là, pour ne pas se laisser envahir par l'émotion qui se dégage de ces personnages, qui ne sont pas des personnages, qui sont de réelles personnes qu'on a en face de soi ?
Déjà parce que vous savez, quand vous êtes dans l'action, et un film c'est aussi de l'action, vous êtes protégé en quelque sorte, parce que vous êtes dans le mouvement, vous êtes dans le mouvement de la vie. Et ensuite parce que je pense que vous imaginez bien que le lien qui pouvait s'instaurer entre tous les magnifiques protagonistes de ce film et moi était un pacte de confiance. Il devait me faire confiance pour pouvoir m'adresser cette parole. Et que je pense que dans le pacte de confiance, il y avait aussi l'idée que, eh bien, je pourrais entendre, je pourrais écouter, qu'à travers moi, parce que c'est une parole qui m'était adressée physiquement, mais je pense qu'à travers moi, il y avait beaucoup de monde et tous les potentiels spectateurs de ce film. Et donc, il faut pas craquer, quoi. Il faut pouvoir tenir, qu'il puisse s'appuyer sur moi, tout simplement.